cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 30 novembre l'an 2000 à Saint-Jodard.
Vous avez dit que l'amitié est une expérience qui permet de comprendre la responsabilité et d'acquérir les vertus. Parce que la vertu est un moyen, pas une finalité. Il faut donc découvrir la finalité la plus proche des vertus. Philosophiquement, pratiquement, on est sur le terrain, ça dépend beaucoup des individus. L'obéissance a-t-elle aussi un rôle à jouer dans l'amitié ? Est-ce qu'avec elle vient nécessairement la contrainte ? Qu'est-ce que l'autorité ? A-t-elle une place dans l'amitié ? On est au plan philosophique, hein. Je ne suis pas au plan pratique. La philosophie éclaire le pratique, mais n'est pas pratique. On n'est pas pratique, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas du... Alors on dit pratico-pratique. La philosophie humaine, elle est pratique. Elle est pratique. Elle n'est pas fini, elle n'est pas pratico-pratique. Le pratique, c'est l'exercice, c'est l'éducation. L'éducation, c'est du pratique, c'est un art. Alors en philosophie, je n'ai pas vos esprits, prendre chacun en particulier, déboîter un peu les contraintes qui viennent de l'imagination et qui vous empêchent de comprendre les a priori. On a des quantités a priori. Alors ça, il faut les chasser. Là, on voit au point de vue philosophique comment saisir les finalités qui permettent de comprendre la philosophie des vertus. Les vertus étant des moyens. Si vous apprenez aux gosses être vertueux pour être vertueux, c'est désastreux. C'est vrai, ça. On voit ça. Parce qu'on fait du moyen une fin. Et faire du moyen une fin, c'est détraquer la personne humaine. Alors, on a une rigidité qu'on ne doit pas avoir. On doit avoir une souplesse qui vient de la fin. On doit avoir une liberté qui vient de la fin. Alors, donc on va regarder la vertu, comment l'amitié réclame la vertu. Vous ne pouvez pas. Vous cherchez l'amitié pour elle-même. Vous ne la cherchez pas pour autre chose. Mais j'ai l'amitié pour elle-même. Parce que l'amitié me fait aimer un bien qui peut être une fin. Parce que c'est un bien absolu. Aimer pour lui-même. L'ami est bon. En tant que bon, il est mon ami. Si mon ami, il est mon bien. Et mon bien absolu. Donc, quand on dit dans l'éducation chrétienne, prends la soupe par amour pour Jésus, par amour pour Marie, vous finalisez la cuillère de soupe. Vous lui donnez un sens. Et c'est vrai, un sens. Et ça, c'est éducatif. Parce que la finalité est recherchée pour elle-même, elle touche votre cœur. Vous aimez la finalité, vous aimez Jésus, vous aimez Marie. Alors, vous faites passer la soupe qui pour certains n'est pas agréable, vous la faites passer par la grande porte, hein, qui est la finalité, l'amour du Christ. Bon, aujourd'hui, l'éducation, la plupart du temps, n'est plus chrétienne. Alors, on prend sa soupe. Oh non, je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Oh, je n'ai pas faim aujourd'hui. Alors, on arrive à manger par devoir. Manger par devoir, c'est jamais très agréable. Et, tandis que manger par amour pour son ami, ça peut aller. C'est différent. L'ami, c'est en réalité. Alors on va voir ça. Il permet de comprendre, oui. Alors ça, c'est une question pour la dernière fois. C'est que l'amitié me donne une responsabilité de mon ami. Quand je dis à quelqu'un « je t'aime », je suis responsable de lui. C'est vrai. Je dis qu'il y a un lien entre nous et un lien de finalité. Et parce qu'il y a un lien de finalité, je suis responsable. Je ne peux pas être responsable de tous les hommes, personnellement, mais je peux être responsable de ceux qui sont autour de moi, de ceux qui sont confiés d'une certaine façon, donc je suis responsable. Et cette responsabilité me permet d'avoir une conscience beaucoup plus aiguë de l'autre. Quand on fait la philosophie de l'autre, on voit très bien que c'est l'amitié qui me fait responsable vraiment de l'autre. Vous n'êtes pas tellement responsable de l'autre quand il est à côté de vous, puisqu'il gratte en même temps que vous. Et quand vous ne grattez plus, il ne gratte plus. Voilà. C'est être compagnon, compagnon de route, oui, ça peut être responsable. Mais c'est assez extérieur. Tandis que s'il est votre ami, vous êtes responsable beaucoup plus de lui intérieurement. Alors, l'obéissance est-elle aussi un rôle à jouer dans l'amitié? Alors là, je suis convaincu que oui. Parce que quand l'amitié devient très forte, est-ce que cette amitié est conforme aux autorités que je connais, qui sont auprès de moi? L'autorité religieuse, Dieu, l'autorité familiale, père et mère. Alors, est-ce que l'amitié a un rôle à jouer au point de vue d'obéissance? Oui, parce qu'elle me fait comprendre la différence entre celui qui a autorité sur moi et celui que j'aime, que j'ai choisi comme ami. Cette relation de l'amitié me fait comprendre que, au-delà de l'autorité familiale, il y a l'affection, il y a l'amour. Et que cette relation d'amour est beaucoup plus prenante que celle de l'autorité où j'obéis. Alors, je compare les deux. Et je comprends que l'obéissance à l'égard de l'autorité, quand il s'agit des parents, du père et de la mère, est très importante. S'il n'y a pas d'obéissance, je ne peux pas être éduqué. quelqu'un qui n'obéit plus, la relation entre père et enfant disparaît. Et à ce moment-là, je comprends que dans l'amour d'amitié, je dois pouvoir redécouvrir cette relation et l'importance de la relation de fils à père, de fils à mère dans l'autorité. Je comprends que dans la relation que j'ai avec les autres, cette relation d'amitié est privilégiée et elle m'aide à comprendre comment j'obéis facilement à un ami et j'ai de la peine à obéir à un père ou une mère qui semble m'aimer très peu, qui m'aime pour que tout aille bien et qui ne s'occupe pas tellement du développement de ma personnalité, alors que l'ami s'intéresse à ça, s'intéresse à moi en tant que personne, en tant que grand, de voir grandir. Et donc l'amitié va me repermettre de redécouvrir comment l'obéissance me donne une force nouvelle. Nous sommes deux à réaliser la même chose. Dans l'amitié, l'obéissance me comprend que l'efficacité, la réalisation commune est absolument nécessaire. Et l'amitié met ça en pleine lumière. Donc, c'est moins direct. Mais l'obéissance, encore, alors l'obéissance, elle aussi, est commandée par l'amitié. Je crois que la relation simplement d'autorité s'use très vite, surtout dans notre monde. Hein. Dans notre monde, combien de temps l'enfant peut-il être obéissant aux parents? Quand on a la télévision qui vient constamment s'opposer au respect qu'on a sur ceux qui ont autorité. La télévision est terrible au point de vue sens éducatif. Elle détruit le sens éducatif. Parce que on ne regarde que les résultats. L'obéissance ne repose pas sur les résultats. Ça, l'obéissance repose sur la coopération que j'ai avec quelqu'un. Et que opérer avec quelqu'un me permet de faire des choses plus audacieuses, plus fortes qu'autrement. Or, c'est encore avec l'amitié que je comprends cette coopération. L'exigence de cette coopération, la plénitude de cette coopération. Est-ce qu'avec elle vient nécessairement la contrainte? Et je comprends qu'au-dessus de la contrainte, c'est l'amour. L'ami me fera faire des choses que personne d'autre ne fera. Et je verrai si l'autorité est sans amour, c'est la contrainte. Constamment. Est-ce que l'autorité a-t-elle une place en amitié? Pas directement. Elle a une place parce qu'elle me fait découvrir la grandeur de la coopération. La force que j'ai de travailler avec mon ami. Et si je réfléchis, je comprends que, au-delà de l'amitié, par l'autorité, je peux redécouvrir quelque chose d'analogue. Oui, obéissance et autorité se découvrent par l'amitié, on va le voir du reste de notre temps, de façon moins directe, mais fondamentalement, l'amitié est gardienne de l'autorité. Fondamentalement, l'amitié est gardienne d'obéissance. Pourquoi ? Parce que l'autorité et l'obéissance me font comprendre que la coopération est une chose humaine pour grandir. Et l'amitié me fait comprendre la grandeur de la coopération. Donc vous voyez, c'est pas direct. Les vertus, c'est direct. Et c'est indirect. Et je crois que nous en avons tous un peu l'expérience de ça. C'est très important dans notre vie de comprendre l'importance de la coopération. C'est même très utile. L'amitié me donne une expérience merveilleuse de la coopération. Ce que je fais avec un ami, c'est un plaisir, c'est une joie. Ça me fait connaître davantage l'ami dans le travail que je fais avec lui. Et ça me donne une efficacité plus grande. On est deux à faire la chose. Alors que si on est seul, on n'arriverait pas. Donc je comprends l'importance de la coopération. Et par cela, je rejoins l'autorité et je rejoins l'obéissance. Je crois que c'est très important de comprendre ces choses-là aujourd'hui. Parce que l'éducation, comme nous ne sommes plus dans un contexte chrétien, l'éducation se perd. Et très vite, on est obligé d'avoir une auto-éducation par l'amitié. Au point de vue pratique, je dirais, si le milieu chrétien est suffisant, on peut voir directement que l'obéissance et l'autorité sont nécessaires. Ça, c'est sûr. Regardez la loi de Moïse. Mais c'est évident que l'autorité et l'obéissance sont là immédiatement. Dans toute éthique chrétienne et religieuse, l'obéissance et l'autorité s'imposent. Donc, je n'ai pas besoin de l'expérience de l'amitié. Vous avez été obéissant au point de vue chrétien avant d'avoir l'expérience de l'amitié. Tous. On a commencé par obéir. Quand ce point de vue chrétien disparaît, on aime de faire le tout fou, toute expérience. Si l'amitié est là, on aura une référence. Et l'ami dira, tu perds ton temps. Et on croira l'ami qu'on perd son temps. Et l'ami nous apprendra à redécouvrir les vertus, l'obéissance et l'autorité. Bon. Maintenant, regardons comment l'amitié me conduit à voir le sens moral des vertus. Je prends le cas de l'amitié sans vertu. Vous avez aimé quelqu'un par son vous a séduit. Il vous a séduit par son intelligence. Il vous a séduit par la beauté de ses yeux. Il vous a séduit par ses capacités d'artiste. Découvrir des tas de choses que, vous voulez, que par vous-même, vous n'avez pas découvert. Mais il n'a pas du tout de vertu. Alors il vous invite, vous vivez avec lui, mais ça ne dure pas très longtemps. Quand on vit avec quelqu'un qui n'est pas vertueux du tout, ça ne dure pas très longtemps, parce que il chipe, il prend tout ce que vous avez. Parce que son humeur passionnée réclame de vous une présence impossible, la concupiscence. Parce que il n'a aucune force s'il s'agit avec lui de faire quelque chose en commun. Il vous laisse toujours la charge. Lui, il a l'art de se débiner merveilleusement au moment où c'est difficile. Il fait ça merveilleusement, avec beaucoup d'intelligence et d'astuce. Et vous avez nettement l'impression que la vie commune est impossible. Et c'est vrai. J'aime mon ami, je l'aime. C'est un merveilleux, c'est quelqu'un qui est merveilleux d'intelligence, de savoir-faire, d'habileté. Mais vivre avec lui, c'est extrêmement fatigant. Mais vous ressentez ça tout de suite. Vivre en commun, ce que l'amitié réclame. L'amitié demande ça. C'est très bien d'être joyeux de son intelligence. Et on s'en sert. C'est très, très heureux. Mais son intelligence ne me permet pas de vivre avec lui. Le fait de coopérer ensemble dans une vie commune, même légère, réclame qu'on puisse ensemble réfléchir sur ce que cela réclame de souplesse. De souplesse. Et la souplesse, elle s'acquiert par la vertu de prudence. Les passions sont déterminées ad unum. La prudence vient mettre une souplesse dans les passions. Il n'y a pas qu'une seule façon d'obtenir ce qu'on aime. Il y a diverses façons. Les passions peuvent aller ordinairement avec l'art, déterminé, anonyme. C'est exclusif, c'est très rapide. Hein. On voit quelqu'un, on ne s'entendra pas. Pas la peine d'essayer, on ne s'entendra pas. Mais s'il n'y a pas cette passion-là, qu'on va chercher à s'entendre, il faut un minimum de souplesse des deux côtés. Et cette souplesse, elle s'acquiert par la vertu de prudence. Vous voyez, le vieil adage de saint Thomas, hein, il n'y a pas de voie déterminée par la prudence. Il y a des voies déterminées pour l'art. Et pour les passions. La passion, ça va tout droit. C'est extrêmement beau, c'est sympathique, mais c'est invivable. Parce que aller tout droit, on voit très bien, ça tourne. On ne peut pas faire ça. C'est très curieux qu'une rencontre de la passion et de l'art qui fait que on exclut automatiquement certains qui n'entrent pas dans le jeu. C'est très net. Ça agit sur le tempérament. On est farouche même. Vous êtes farouche. La prudence vient apporter un regard d'intelligence sur ce qu'on doit faire. Pour ce qu'on doit faire en vue de l'amitié. En vue de cette amitié avec telle personne. Je dois très vite comprendre que cette personne a des goûts qui ne sont pas tout à fait comme les miens. Pour vivre ensemble, il faut qu'on ait un minimum d'entente. Et la prudence sera là pour comprendre pratiquement ce qui est bon pour cet individu, pour mon ami, ce qui peut s'accommoder avec son caractère. Vous voyez, c'est, je crois, la première condition, voir ce qui peut le convenir. Convenience, le bien, telle chose lui convient, telle autre chose ne lui convient pas du tout. Et ce n'est pas du tout une appréciation morale. C'est une appréciation humaine en raison de l'amitié qu'on a pour quelqu'un. On comprend ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Ce qui lui convient selon son aspiration profonde, sa finalité, et qui convient à cet amour qu'on cherche, ce qui, au contraire, semble complètement en dehors. Il faudra s'assouplir longuement avant de pouvoir se rejoindre. Tandis que si on peut voir ce qui lui convient, le comprendre. Or, ce qui convient à quelqu'un, c'est un jugement, ça. Un jugement pratique. C'est pas une séduction. C'est pas l'attraction du bien. Non, ce qui convient. Ce qui convient est un acte de jugement pratique qui se fait par rapport un bien absolu, ce qui peut lui être relatif, ce qui au contraire va l'irriter. Dans toute amitié, il y a ce jugement-là très vite. On connaît son ami, je sais ce qui lui convient et j'essaie de lui fournir ce qui pourra l'intéresser, ce qui sera pour lui quelque chose de bien, de bon, auquel il pourra se reposer en quelque sorte. Là, la prudence est capitale. Si je vis selon mes passions, elles sont directes. On risquera de s'emballer, de s'opposer. Si je sais ce qui peut l'irriter, ce qui au contraire peut l'apaiser. Je verrai tout de suite ce qui convient, comment il faut lui présenter ça, pour ne pas l'irriter. Et la vertu de prudence consiste à voir ce qui est capable d'être assumé par une femme. Ce qui, au contraire, s'oppose à cela et empêche. Quand je veux acquérir l'amitié de quelqu'un, je ne regarde pas seulement ce qui me convient, mais je fais attention à ce qui convient à l'autre. Tout de suite. Et, autant que possible, je verrai que ce qui convient à l'autre n'est pas contraire à ce qui me convient, mais doit être un peu semblable. Et je chercherai parmi les biens qui me convient celui qui convient à l'autre. Je crois que c'est la première attitude, là. Mettre de l'intelligence dans l'amour. Et présenter à celui que j'aime ce qui est convenable pour nous deux, où on pourra vraiment non pas s'installer dans cela, mais on pourra coopérer à ce quelque chose. Premier moment, découvrir ça. C'est vraiment en coopérant à quelque chose de quelquefois très simple que l'amitié pourra progresser. Parce qu'il y aura à ce moment-là un contact. On se retrouvera ensemble.